Pour cette troisième partie de ce 11e de Radio Barx, comme nous l'annoncions au début, Monsieur Sébastien Plat. Alors, vous avez entendu parler d'un certain nombre de sujets, Monsieur Plat, qui vous tiennent à cœur, j'imagine. Par lequel voulez-vous commencer? Les corbières ou le tourisme?
Comme bon vous semble.
Alors, parlons de cette rocambolesque communauté de communes.
Rocambolesque, croquignolesque, pagnolesque.
Oui, tous ces esques sont abracadabrantesques, si on peut l'ajouter également. Alors, d'abord, comment c'est né? Parce que c'est tellement justement insensé qu'on se demande comment cela a pu être conçu.
Je vais tenter.
Voilà. Monsieur Santo vous a éclairé quant aux motivations des uns et des autres, qui n'étaient pas des motivations de construction d'un territoire, d'un nouveau territoire, de projet, mais uniquement que chacun conserve son précaré et ses moyens. Les uns sont assis sur un tas d'or et donc ne veulent pas partager le gâteau avec les autres. Et les autres avaient peur de se faire absorber par ou Lézignan ou Narbonne. Voilà, donc une fusion par défaut. Un mariage non voulu, en fait.
Oui. Alors, pour expliquer en deux mots, les communes audoises qui sont rattachées à cette communauté de communes, c'est essentiellement celles du sud extrême du département.
Oui, ce sont la vôtre, les Hautes Corbières.
Voilà, c'est ça.
L'ancien canton de Tuchan,
Duyac, Cucugnan, citez-en deux ou trois.
Vous avez une quinzaine de communes, qui partent de Soulage, qui est vraiment en limite du canton de Cuisat, qui était d'ailleurs à l'époque sur la communauté de communes de Moutoumet, et vous arrivez à Villesec des Corbières, aux portes de Narbonne et aux portes de la Haute-Vallée.
Oui, c'est un territoire très vaste, un peu peuplé. L'ancienne frontière pratiquement entre le royaume d'Aragon et la France, à peu près.
Exactement.
Un territoire très vaste et très peu peuplé, comme le disait.
Exactement. Un territoire très vaste, très peu peuplé, mais très riche. Point de vue patrimonial, avec nos châteaux, nos espaces naturels, notre vin qui est extraordinaire, le Fitou, il faut quand même parler de Corbières. Donc un territoire, sanctuarisé, pour lequel nous travaillons depuis maintenant 3 ans à la reconnaissance sur un certain nombre de labels et de démarches d'excellence environnementale. Nous sommes en train de constituer un parc naturel régional sur la zone, d'ailleurs en partenariat avec les départements voisins, puisque le Fenouillet est associé, une partie de la communauté urbaine de Perpignan aussi, et ça va jusqu'à la Haute-Vallée. En fait, c'est la Corbière sèche, le cœur des Corbières. Nous sommes aussi impliqués sur la reconnaissance à l'UNESCO de nos châteaux, de nos forteresses.
Voilà, parce que cette petite zone est très dense en châteaux dits cathares. Peyre-Perthuse, Kéribus, puis il y en a peut-être quelques...
Aguilar aussi.
Aguilar,
tout à fait.
Oui.
Non, c'est trois des cinq fils de Carcassonne, hein, forteresse royale. On ne parle pas de catharisme sur cette zone-là, mais bien de forteresse royale, qui d'ailleurs était connectée avec l'archevêché de Narbonne par le passé. Donc il n'y a pas une incohérence aujourd'hui de travailler, de fusionner avec le Grand Narbonne, effectivement.
Alors, intéressant ce rappel historique.
L'histoire se rappelle toujours à nous.
Oui. Alors donc, aujourd'hui, le vin est tiré, si je puis dire, il faut le boire, mais ça se passe très mal, puisque apparemment...
Ça s'est passé très mal au début. Je vais faire un petit résumé de la situation. Le président de la communauté de communes Salanque avait peur, au regard de la loi NOTRe, d'intégrer la communauté urbaine de manière forcée, puisque son territoire était autour de 15 à 16 000 habitants, avait tenté de construire une commune nouvelle avec la commune de Saint-Hippolyte, à côté de Clairat, justement pour élargir sa base de population et résister par rapport à l'ogre perpignanais, si j'ose dire.
Ce qu'est la métropole aujourd'hui.
Et ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire parce que, entre-temps, la communauté urbaine Perpignan, la communauté d'Aglo, s'est transformée en communauté urbaine. Et donc, la commune de Saint-Hippolyte ne pouvait plus fusionner avec la commune de Clairat, qui prenait le risque d'être intégrée directement à l'Aglo, s'il fusionnait. Donc, du coup, ce scénario-là est tombé. Donc, monsieur Puig, avec qui, il y a quelques élus de chez nous qui ont des acquaintances, a organisé une réunion sur la commune de Fitou, qui est quelque part l'Andorre de ce périmètre-là, au milieu, là, la principauté, pour éventuellement évoquer, puisqu'ils avaient eu vent de la volonté des communes des Corbières, de rester groupées et de ne pas terminer partagées en deux entre Lézignan et Narbonne. Parce que le schéma tel qu'il était prévu dans le département de l'Aude par le préfet était de coupe communauté de communes des Corbières, qui était d'une quinzaine de communes, entre Narbonne et Lézignan. Lézignan récupérait grosso modo Fonjoncouze, Maisons et Montgaillard, et tout le reste partait au Grand Narbonne.
Donc finalement, finalement, vous êtes tourné vers le sud. Enfin, donc, on s'est tourné vers le sud.
Voilà, s'est tourné vers le sud pour rester unis 15 communes. Or, à un moment donné de la fusion, d'un certain nombre de rencontres techniques et politiques pour essayer de préparer en fait la fusion, pour travailler sur les compétences, essayer de d'écrire une charte de fusion à peu près correcte, monsieur le président de la communauté de communes de Salanque a rencontré les 15 maires des Corbières, qui sont 15 élus impliqués dans leur vie communale, qui défendent leur territoire et qui, lors de débats, toujours des débats enflammés, chacun a quelque chose à dire, alors que sur la communauté de la Salanque, à 4 communes, vous savez, le débat, ça va très vite, hein, vous rencontrez à 4 maires, vous prenez les décisions et terminé.
Et il a réussi à convaincre son monde.
Alors. Il a surtout eu peur de ces irréductibles cathares qui s'agitaient un peu trop, qui ne représentaient pas grand-chose en termes d'habitants à son goût. Et donc, je pense qu'il a pris peur et il a décidé d'interrompre, mais avoir unilatéralement, le processus de fusion. Et donc, remettre en cause l'arrêté qu'avait pris la CDCI de l'Aude et des PO qui prévoyait la fusion. Donc, à partir de là, le mariage ne pouvait pas fonctionner. Mmh. C'est clair. Sachant qu'entre-temps, je vous passe les détails, un certain nombre de manifestations assez ridicules dans les rues de Perpignan pour crier au scandale. Les gens des Corbières vont nous ruiner. Ils ont des coûts de fonctionnement énormes, près de 400 salariés, ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a 80 salariés sur l'ancienne communauté de communes des Corbières, et sur les 80, vous en avez 70 qui sont affectés à l'action sociale, au service d'aide à domicile, et à la politique enfant-jeunesse. Voilà, donc, pas mal de mensonges, d'exagérations. Et cette fusion a eu lieu au 1er janvier, de fait, imposée, obligée quelque part. Mmh. Donc les uns se sont sentis obligés de prendre les autres, inversement. Donc ça pouvait pas bien se passer.
Forcément, il y a eu des rancœurs dès le
début.
Tout
à fait. Bon. Donc il a été désigné un certain nombre de boucs émissaires. Il a été effectué une certaine chasse aux sorcières, qui fait que, à un moment donné, on peut être patient, croire que demain sera un autre jour meilleur, en
oui,
tout cas,
mais vous n'y croyez pas.
La main sera tendue, et au lieu de tendre la main, ils nous l'ont mise par la figure.
Ils voulaient...
Voilà, et régulièrement. Bon, moi, cet été, moi, pas ramasser les poubelles sur la commune. Écoutez, j'ai 52 000 visiteurs qui passent à Peyre-Pertuse, c'est le premier.
Ah bon, il y a eu des vexations de ce type.
Il y a eu des coups coquins. Voilà, c'est ça. Je vous dis, ça ressemble à Pagnol un peu.
Donc. Oui, monsieur.
J'ai vu ça, effectivement. J'avais chroniqué là-dessus. C'est cet été, quoi. Hein, un conteneur où juste.
Mais on vous les relève un jour, du marché. Une fois sur deux.
Et voilà, puis, ouais. Juste alors... devant au début du sentier qui mène au château.
Ouais, enfin bon, ouais, effectivement. Alors, je comprends, monsieur Plat, que ça ne pouvait pas, ça peut pas marcher.
Bon, ça, c'est l'anecdote marrante. Mais bon, derrière, c'est quand même des pressions. Des élus ont subi d'importantes pressions. Le maire de Tuchan, on peut en attester, vous lui demanderez, qui était vice-président d'ailleurs. Le président de l'office de tourisme a reçu des courriers intimidants. Aucune relation avec les services. Enfin, une situation très... Enfin, une ambiance particulièrement ostracisante.
Délétère. Alors, on se pose forcément la question, quid de l'avenir ?
Quid de l'avenir ?
Y en a-t-il un ?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
À moyen terme, il n'y en a pas. Il faut se dire les choses. Il faut que les auditeurs le sachent. Dans cette affaire-là, aujourd'hui, il y a déjà un problème juridique lié à un recours dont M. Santo a parlé tout à l'heure de la commune de Sals, qui remet en question, en fait, l'ancienne communauté de communes de Salanque, qui n'aurait jamais dû délibérer la fusion, puisque depuis 2015, normalement, toutes les délibérations et les décisions prises par la Salanque, logiquement, devraient être cassées. Mmh. Donc il y a ce problème-là, cette épée de Damoclès là-dessus. Il y a la commune de Sals, qui est allée l'intersection des deux territoires Aude-PO qui projette de fusionner avec la commune d'Opoul, qui est une commune de la communauté urbaine de Perpignan. Si cette fusion se fait, plus de continuité avec l'Aude, plus de communauté de communes Corbières-Salanque-Méditerranée. Donc c'est une intercommunalité qui est vouée à l'échec, qui est morte-née. Mmh. Moi, je vous le dis clairement, qui est morte-née. Ça prendra 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Mais elle n'a pas d'avenir.
Oui.
Donc il serait beaucoup plus intelligent aujourd'hui de la part du président de la communauté de communes Corbières-Salanque de se mettre autour de la table avec le corps préfectoral, avec les élus dits d'opposition. Mais moi, je ne suis pas dans l'opposition. On m'a imposé l'opposition. On m'a désigné opposant. Or, je ne le suis pas. Il est socialiste, le maire de Pia, vous le savez. Et il avait un vice-président socialiste qui est le maire de Tuchan. Et lors de son investiture, en révisant l'ensemble de sa gouvernance, il a fait sauter le maire de Tuchan. C'est pas un problème politique.
Oui, c'est un problème plus de personnes et de comportements.
Complètement.
Oui. Bon, donc...
Dans un territoire aujourd'hui qui est en souffrance, des citoyens pris en otage de cette affaire-là, une ambiance délétère au sein des Corbières, alors que les communes étaient très solidaires les unes des autres, lorsque nous étions ensemble, des projets coincés. Le projet du PNR aujourd'hui menacé par des décisions liées à un schéma de développement des énergies renouvelables, en particulier des éoliennes sur la zone, qui a été refusé par la communauté de communes de Salanque, qui souhaite sur ce territoire développer de l'éolien de façon particulièrement anarchique. Alors moi, je suis absolument pas contre l'éolien, bien au contraire, mais à un moment donné, sur un territoire comme le nôtre, il y a des zones d'exclusion claires, puisqu'il y a des sites classés monuments historiques, il existe des zones Natura 2000, des ZPS, des directives habitat, il y a un radar météo, enfin bon, il y a un certain nombre de contraintes qui font qu'on ne pourra pas mettre de l'éolien n'importe où. Donc ça pose c'est un réel sujet, le sujet de l'éolien, je pense qu'il faudrait le traiter lors d'une autre émission, parce que ça dure longtemps. Donc le PNR est en difficulté par rapport à l'attitude de cette intercommunalité. La candidature UNESCO, elle aussi, est menacée par ce type d'attitude.
Oui, ce qui fait que rien ne va plus.
Rien ne va plus. Le département vient d'annoncer en grande pompe, enfin Monsieur Banquet, le président du SIADEN, que tous les Audois auront le très haut débit demain sur le territoire. Moi, c'est un dossier qui me tient à cœur sur la ruralité sur ce territoire-là. Depuis 2001, je travaille avec eux à déployer la fibre optique. Aujourd'hui, la seule communauté de communes qui n'a pas signé la convention avec le syndicat
c'est celle-ci.
C'est la Salanque, oui, parce qu'elle ne veut pas mener la fibre optique sur des communes dont elles ne peuvent pas. Elles ne veulent pas travailler avec le maire. Donc c'est Touchant Basiol, c'est aberrant, c'est du Pagnol.
Oui. Donc on comprend, Sébastien Plat, qu'il n'y ait pas un grand avenir dans cette structure-là.
Enfin, moi, je suis ouvert au dialogue, il n'y a pas de problème, mais s'agirait-il de l'accepter, de le proposer.
Alors, venons maintenant à la deuxième partie importante, puisque vous êtes responsable du tourisme dans le département de l'Aude, étant également conseiller régional et vous occupant également de tourisme. Et Michel a essayé de décrire la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Comment vous arrivez-vous ou pensez-vous pouvoir tirer votre épingle du jeu ? Drôle de jeu.
Drôle de jeu, oui. Pour revenir en fait à la loi NOTRe qui n'est pas allée jusqu'au bout sur le volet de la répartition des compétences.
Voilà, mais une fois encore, comme souvent malheureusement.
Bien sûr. La région qui avait toute légitimité à devenir avoir la compétence pleine et entière de la promotion et du développement touristique, ben finalement, elle se retrouve, chef de file. Pour filer quoi, j'en sais rien, mais le problème, c'est que du coup, nous sommes obligés au niveau de la région de faire une sorte d'exercice d'équilibriste qui consiste à organiser, malgré tout, à tenter d'organiser la promo, la communication et l'organisation, la structuration touristique sur l'ensemble du périmètre de cette nouvelle région qui ressemble quand même beaucoup plus à un pays qu'à une région d'ailleurs. C'est plus grand que l'Irlande, l'Occitanie.
Oui,
en partenariat avec les autres structures, les autres collectivités qui aujourd'hui exercent la compétence. Les intercommunalités qui ont la compétence gestion des offices de tourisme depuis l'année dernière, les stations classées qui ont pu garder leurs offices de tourisme, les comités départementaux de tourisme. Il existait des pays touristiques, bon, maintenant il n'y en a plus. Ça facilite un peu les choses. Donc vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs.
Il y a une foule d'interlocuteurs.
Bien sûr, dans les collectivités qui font que. Il y a une dilution des moyens financiers, c'est clair. Donc nous, notre vraiment volonté au niveau régional a été de construire un schéma régional, vous allez me dire un schéma supplémentaire, non, définir un certain nombre d'ambitions, regarder les problématiques que rencontre le territoire de l'Occitanie, ses faiblesses, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face ces faiblesses pour redynamiser, redévelopper, et en tout cas permettre à cette région d'être conquérante au niveau international et de gagner des parts de marché. Pour cela, il fallait présenter une politique, travailler une politique de développement touristique avec tous ses interlocuteurs. Donc nous avons passé, avec M. Jean-Louis Guillaumont, le vice-président délégué au tourisme, à peu près un an et demi, aller à la rencontre des opérateurs sur chaque département des 13 départements de la région, pour rencontrer les présidents d'exécutifs départementaux, les présidents d'intercommunalités, les présidents d'offices de tourisme station classée, l'ensemble des opérateurs, le champ consulaire, l'industrie de.
Et alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous voyez un bout du tunnel ?
Un schéma. On voit un bout du tunnel, il faut y croire. Hein. Je suis d'un naturel toujours optimiste, mais croyez-moi, c'est pas simple. Si ces objectifs sont partagés par nos partenaires, bon, on doit être en mesure, à un moment donné, chacun de...
D'avoir une politique cohérente.
Cohérente, voilà, tout à fait. Et de sortir de cet individualisme qui fait que on rentre dans un système où le tourisme, c'est pas un gadget. Chacun veut garder son office de tourisme, son espace d'accueil. Tout le monde parle de tourisme, tout le monde fait du tourisme, mais en fait, personne n'en fait réellement. Aujourd'hui, le tourisme n'est pas organisé de façon professionnelle, en particulier sur les petits échelons. Donc, ayons une ambition très forte, et cette ambition, elle n'est pas neutre. Le but, c'est d'essayer de conquérir des parts de marché, notamment internationales, gagner 5 millions de nuitées supplémentaires par an sur l'ensemble du périmètre de la région. Ce n'est pas un objectif intenable, pas du tout. Dans l'ordre, on est en développement de 3 à 4% par an en termes de fréquentation et de développement de la nuitée. Donc, à l'échelle de la région, on doit pouvoir y arriver. Sauf que derrière, en matière de communication, ben, on ne peut pas partir à l'international sous 50 bannières différentes. Mmh. Il en faut une, l'assumer, mettre les moyens derrière et la promouvoir. C'est ça le sens de notre message. La région étant la structure supra de tout ça, elle coiffe l'ensemble de ce territoire. À elle d'écouter ce qui se passe sur le terrain, mais surtout d'orienter et d'aller chercher, de tendre la main aux opérateurs. Honnêtement, hein, j'ai l'impression que ça prend. On arrive à se parler, on arrive à construire. Le souci du CRT, par exemple, qui était aujourd'hui un serpent à deux têtes. Vous aviez un CRT Midi-Pyrénées, un CRT Languedoc-Roussillon, un qui était relativement puissant à Midi-Pyrénées, l'autre qui a été divisé en deux avec la CMU de France. Donc aujourd'hui, on revient à une structure globale en agglomérant les deux opérateurs avec quelques moyens. Bon, il va falloir compter sur ce CRT et travailler avec. Mmh. Mais les opérateurs, moi, pour voir dans le département de l'Aude comment ça se passe, on évolue régulièrement. Vous savez, il y a toujours une cassure dans ce département entre l'Est, l'Ouest, oui, Carcassonne, ben ça fait, Narbonne, les uns sont cathares, les autres sont romains ou
ça fait beaucoup balnéaires. De cassures, ça.
Et moi, je suis du Sud, dans les Corbières, au milieu, si vous voulez, je suis au-dessus de tout ça. J'essaye de recoller les morceaux, d'avoir une politique touristique au niveau départemental très cohérente.
Alors justement, Sébastien Plat, on va conclure là-dessus. Le département, aujourd'hui, puisque c'est votre responsabilité concrète aussi.
Voilà. Le département, moi, la stratégie, elle est claire. Département de l'Aude, nous avons deux à trois grands marqueurs, grandes thématiques très fortes, qui est l'histoire, le patrimoine lié au pays Qatar, dans lequel on peut y rajouter la gastronomie, les savoir-faire et tout le reste. Et puis de l'autre côté, vous avez la thématique de la romanité, vous avez surtout la Méditerranée. La Méditerranée, moi, je rêve que mes amis, les maires du littoral méditerranéen audois, arrivent à un moment donné à se positionner et à trouver un nom à nommer ce trait de côte audois. Moi, je vois très bien, c'est le golfe du Lion, c'est peut-être le golfe antique. Il me plaît la notion de golfe antique pour nommer ce trait de côte et à partir de là, engager de la communication au niveau régional. Pour mettre en exergue cette richesse.
Oui, Michel a une idée sur le nom ?
Non, mais c'est une marotte parmi les marqueurs, mais je fais observer à Sébastien quand on regarde les chiffres, hein, si on additionne en fait le nombre de visiteurs sur les deux grands sites médiévaux de ce département, que sont la cité de Carcassonne et l'ensemble de Narbonne, on a le plus grand nombre de visiteurs de l'ensemble de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Le problème que j'ai observé, c'est que ce marqueur-là, en fait, hein, monumental, médiéval, ne figure nulle part. En fait.
Oui.
C'est quand même un problème, quoi.
Alors, effectivement, alors Monsieur Plat, lui, est sur la Méditerranée. Elle existe aussi, cette Méditerranée.
Oui, elle existe.
Et elle attire du monde.
11 millions de nuitées, aujourd'hui, sur les 20 à peu près du département de l'Aude, sont sur les stations du littoral. Donc, on ne peut pas passer outre cette réalité. Après, vous avez raison de le dire. L'Aude reçoit 3 millions de visiteurs. 3 millions de visiteurs, ben vous en avez 2,5 millions qui font l'ensemble monumental de Narbonne et la cité de Carcassonne. C'est clair, net et précis. Et cette romanité qui, à un moment donné, va bien falloir la faire émerger d'une façon ou d'une autre. Et là, pour le coup, en partenariat avec d'autres opérateurs, notamment la région autour du musée.
Notamment lorsque le musée sera fini. C'est peut-être une occasion, ça sera une occasion de vous retrouver à ce micro.
Avec plaisir.
Sébastien Plat, en tout cas, merci aujourd'hui d'être venu nous parler de ces diverses compétences et d'évoquer en toute franchise un certain nombre de problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien.
Merci.
C'était la dernière de la saison pour ce Radio Barque, enfin de l'année plus exactement, pas de la saison. Nous reprendrons en janvier, et là ça sera le premier vice-président de la région, un collègue, Didier Codorniou, maire de Grissan, qui viendra à ce micro, et il sera succédé par Michel Py, qui sera peut-être à l'époque, je ne sais pas, véritablement vice-président de l'agglo. Enfin, autant de questions qu'on va se poser pendant ces fêtes, qu'on va laisser mûrir. Et nous vous remercions de nous avoir suivis cette année. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous, n'est-ce pas Michel, à l'année prochaine.
À l'année prochaine et joyeux Noël.